Merci Pierre et toute son équipe pour ces beaux chants de louanges. Alors ce matin, il me fait plaisir de vous présenter notre invité spécial, Marc Levasseur, qui est le directeur général et fondateur de l'organisme Renaissance autochtone. Depuis 2008, un organisme qui a pour but de propager l'Évangile parmi les autochtones. Vous savez, Dieu a un peuple de toute race, de toute nation, de toute couleur, de toute langue, de toute culture. Et par l'Évangile, il était en train justement de chercher des âmes. Alors, Marc est marié, son épouse s'appelle Salomé, et ils ont deux beaux enfants, Cléopé et Yakim. Et sans plus tarder, je vais demander à Marc de venir nous présenter le ministère autochtone. Merci.
Bonjour tout le monde. Ça va bien? Vous êtes en forme? Tant bien. Ça, je suis pas aussi pour le PowerPoint. Parfait. Ça, c'est une photo de ma famille. Comme il a dit, mon épouse, c'est Salomé Béliveau, avec mes deux enfants, Cléopé et Yakim. Et mon épouse est maintenant enceinte de 3 mois. Troisième et dernier. C'est assez. On a tellement de choses dans la vie, à un moment donné, il faut être sage aussi. Mais je sais qu'il y en a qui ont été entendu parler d'un petit Yakim, là, à peu près 16 mois de cela. Et il y en a qui, peut-être parmi vous qui ont prié pour lui. C'est mon fils, Yakim Levasseur, qui a vécu un arrêt cardiaque de 10 minutes après, 2 semaines après sa naissance, qui a été 1 semaine dans le coma. Mais comme ils disent les médecins, c'est un petit miraculé. Il est rendu à 16 mois, aucune restriction, aucune séquelle, rien. S'il se développe, ça a été un miracle, littéralement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai rencontré mon épouse à Parole de vie Bethel en 2000. On était un couple de Bethel. À ce moment-là, les deux, on savait déjà qu'on avait un appel au ministère. D'ailleurs, je n'aurais pas choisi elle si elle n'aurait pas eu un fardeau ou un désir d'aller dans le ministère un jour. Pour moi, c'était clair déjà à ce moment-là. Je vais commencer par m'introduire, après ça introduire un petit peu qu'est-ce qui nous a amené au ministère, comment on a parti au ministère, ensuite on va parler d'autres choses. J'ai 4 chapeaux, je suis un gars un petit peu occupé dans une vie, c'est-à-dire qu'en moyenne c'est 14 heures par jour. Mon premier rôle le plus important, celui d'être papa et mari, c'est-à-dire ma famille. Mon deuxième chapeau, qui est celui qui paye mes factures et nous fait vivre, c'est celui d'être agent correctionnel à l'établissement Sécurité Maximum de Port-Cartier. Donc, j'ai un métier un petit peu rough, mais je travaille 14 jours par mois, des chiffres de 13 heures, ce qui fait que j'ai 18 jours par mois de libre, sans avoir besoin de soutien financier vraiment, pour le ministère, qui fait mes deux autres chapeaux. Mon troisième chapeau, c'est celui d'être en assistant à l'ancien pasteur à l'église Haimieu Mamoitoun, à Washap Mangmaniotaman. Ben, vous tous ont compris. En fond, ça veut dire le rassemblement, le lieu où on se rassemble pour prier. C'est en Inou. C'est sur la réserve à Washap. Avec Denis et Brigitte Maisonneuve. Je prêche environ une fois par mois et je fais du suivi individuel un petit peu, surtout les leaders, parce que c'est ça mon rôle. Et mon quatrième chapeau, celui qui fait que je fais 60 000 km par année, c'est celui d'être directeur général de l'organisme Renaissance autochtone. Sur la carte, là, vous avez pas toutes les communautés du Québec. En réalité, au Québec, il y a 58 communautés autochtones. Il y a 80 000 autochtones, c'est-à-dire Inuits et membres des Premières Nations, enregistrés. En réalité, si on prendrait tous les Autochtones non statués, les Métis, on a à peu près 200 000 au Québec, mais qui sont dans des communautés enregistrées avec un tag dans le front, ça représente 80 000 personnes. Sur la carte, vous avez une vingtaine de communautés. C'est les communautés qui ont été colonisées par les Français. La plupart des gens, quand ils pensent aux Premières Nations au Canada, ils pensent suite à des anglophones, que ce soit Mohawk, que tu penses aux Cris, tu penses aux Mi'kmaq, que tu penses aux Aïchinabé, les Algonquins en français. La plupart du temps, les gens ils vont penser, c'est tous des anglophones, mais en réalité, au Québec, il y a encore 40 000 Autochtones qui ont été colonisés par les Français. La majorité de ces communautés-là ont encore leur langue, leur première langue, c'est-à-dire leur langue autochtone, l'inou, pour les montagnais. Il faut que je traduise, on va faire un petit cours d'éducation. L'inou, en réalité, c'est le vrai nom de ce peuple-là, que les Français ont baptisé montagnais. Inou, qui veut dire le peuple, les humains, en d'autres choses. Et leur langue, qui est l'inou, c'est toutes les communautés que vous voyez au nord, Pakwashipi, Washat, Matimekosh. Les Atikameks, Obedjouan, Omontachi, Manouan, les Anjons, c'est des Aïchinabé, ou en français des Algonquins. Ces gens-là ont leur langue. Ils parlent encore à plus de 80% leur langue autochtone. Et il y a encore presque un 20% qui sont unilingues dans leur langue autochtone. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas français ni anglais. Ça, on en parlait plus loin, comment la colonisation s'est faite. Pourquoi que... je veux revenir un petit peu en arrière. En 2004, alors que j'étudiais au bac en théologie à Québec, c'est là que Dieu nous a confirmé notre appel auprès des Premières Nations, à moi et mon épouse. On regardait pour aller travailler dans les communautés, soit de la Romaine ou de Shefferville, Matimekosh-le-John. Mais Dieu a toujours fermé les portes. Et finalement, au milieu de 2006, il a ouvert une porte pour qu'on puisse aller travailler à prison à Port-Cartier, qui était à côté de la seule église où il y avait des croyants d'une communauté innu au Québec, c'est-à-dire à Washan. On a vraiment vu la direction de Dieu, on a été là-bas. En 2007, ce qui s'est produit, c'est qu'on s'est mis à continuer à voyager dans plusieurs communautés parce qu'on avait ce fardeau-là. Puis c'est là qu'on s'est... que Dieu nous a parlé énormément, moi et mon épouse, puis qu'on a été vraiment touchés. Parce que sur les 40 000 Indiens qui peuplent, membres des Premières Nations, qui peuplent ces vingtaines de communautés-là, il y a une église d'à peu près, à ce moment-là, qui avait à peu près 5 membres, à Washat. Il y avait un ou deux chrétiens à Womontashi, un ou deux chrétiens à Manawan, un ou deux chrétiens à Obedjouan, quelques-uns à Pickhaugan, Lac Simon, c'est un petit peu. En réalité, on n'en a même pas dénombré 100. Par contre, on a dénombré 10 communautés là-dedans qui n'ont jamais été évangélisées encore, en 2007. 10 communautés où l'Évangile n'a jamais été prêché. Mais 10 communautés en même temps où on ne pouvait pas aller les évangéliser avec des approches traditionnelles, parce qu'ils se faisaient systématiquement mettre dehors. On s'est mis à regarder ce qui avait été fait dans l'œuvre auprès de ces communautés-là, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient essayé beaucoup de choses depuis les années 80, qu'en réalité, il y avait à peu près 70% des efforts qui avaient été faits avaient fait reculer l'œuvre plutôt que la faire avancer. Comment des chrétiens, ça a été dur même pour moi, comment les chrétiens qui ont à cœur de faire avancer l'Évangile ont pu réussir en 30 ans à non seulement ne pas la faire avancer, mais à mettre des barrières pour ceux qui suivent, qui voudraient la faire avancer. Ça, c'est la réalité qu'il y a eu dans ces milieux-là. Tout ça à cause d'une chose qui est vraiment propre au Québec, c'est-à-dire une méconnaissance complète des Autochtones. Je m'amuse à faire cette affirmation-là gratuite en commençant ma présentation dans toutes les églises où je vais, c'est-à-dire que la majorité, très grande majorité, pour ne pas dire pratiquement tous les Québécois, ne connaissent pas les Autochtones, ne connaissent pas du tout. Un bon pourcentage sont racistes. Et une très grande majorité ont des très forts préjugés. Là, je m'amuse à faire une grosse affirmation gratuite devant vous autres. Fait que, si vous voulez sortir des roches, c'est le temps. Non, mais ça, j'en ai déjà parlé. On va... À cette heure, j'ai fait une affirmation gratuite. Je vais m'amuser un petit peu à la prouver. À vos dépens. Si vous êtes volontaire. On va y aller avec un petit sondage. C'est là que je me bidonne. Bon, qui d'entre vous ont déjà été dans une réserve autochtone? Je ne parle pas de passer sa route, mais je parle d'arrêter et de jaser avec des gens. Qui? Oh boy! Ça. D'habitude, j'arrive à 50%. Là, on est à peu près même pas à 50%. Ça veut rien dire, celle-là, parce qu'on peut connaître les Autochtones sans avoir été dans une communauté nécessairement, sauf que si vous n'en avez jamais vu, c'est un petit peu dur. On va y aller avec qui ont des amis avec qui ils ont échangé dans une période de la vie, qui sont des membres des Premières Nations. Il y en a plus. Oh, mais c'est intéressant. Ça veut dire des gens hors réserve. On va y aller avec un petit peu plus compliqué. D'habitude, c'est là que tout le monde échoue. Qui est capable de m'expliquer c'est quoi les pensionnats indiens? Les pensionnats indiens. Les pensionnats. Oui. Est-ce qu'elle est capable de m'expliquer? On a un. Il y a des demi-mains. On n'est pas sûr. Tout le monde a entendu de quoi à quelque part. Ouais. Là, expliquez-moi le pas, parce que là, vous allez tout brûler le reste de ma chose. On va y aller avec une facile où tout le monde a un taux de réussite assez phénoménal, même ceux qui n'osent pas lever la main. C'est sûr que des Indiens, ça ne paye pas de taxes, puis c'est des alcooliques. Allez. Levez la main. Bon, ben, je viens de prouver mon affirmation de tantôt. En réalité, les histoires des taxes et l'histoire de l'alcool, oui, il y a un fondement de vérité là-dedans. Mais toutes les questions que je vous ai posées en arrière, en réalité, ça, c'est qui ils sont, c'est leur histoire. Tu sais, quand on parle des pensionnats indiens, là, il y a quoi à peu près? On va être généreux, 5 personnes qui seraient capables de peut-être me donner une bonne idée de c'est quoi. Pourtant, c'est l'événement des 60 dernières années qui a conduit aux problèmes actuels sociaux des communautés. Puis ça, les gens ne savent même pas. Qui sont les Autochtones? Tu sais, avant de commencer à parler de c'est quoi qu'on fait avec eux, il faut savoir à qui qu'on s'adresse. Puis, je vais vous inviter personnellement juste à faire un examen dans votre cœur par rapport à ces préjugés-là que vous pouvez avoir. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas aimables. Je ne vous demande pas de les aimer. Juste d'ouvrir un petit peu votre vision pour essayer de comprendre c'est qui cette autre personne-là, cette autre culture-là. Tu sais, dans Actes 1 au verset 8, il parle d'une gradation. Et vous serez mes témoins dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Judée, c'est même pays, même peuple, même culture. C'est le Québécois des Québécois. Pour vous, c'est votre voisin, c'est des gens que vous côtoyez qui sont dans la même culture que vous. Ensuite, il vient la Samarie. Ceux qui connaissent l'histoire assez facilement, avec l'histoire du bon Samaritain, les Juifs avaient une haine viscérale envers les Samaritains. Les Samaritains avaient une haine viscérale envers les Juifs. C'était deux peuples côtoyant le même pays, le même espace, et deux cultures et de deux origines différentes. Ça ressemble aux Autochtones. Bien gros. Bien gros. Puis ensuite, on parle des extrémités de la terre. Ce qui est étonnant dans le milieu évangélique au Québec, c'est que tout le monde a entendu parler de l'Haïti, tout le monde a entendu parler de l'Afrique, tout le monde connaît les extrémités de la terre, mais tout le monde a oublié la Samarie. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler de cette Samarie-là. On va commencer avec un rappel d'histoire. En quelle année a été découvert l'Amérique et a commencé à exister? Ça, c'est le piège en question. le dis. As-tu des fervents d'histoire, Jacques Cartier, quelle année? 1534, bon. Pour le Québec, c'est la date de commencement. En été, ça a commencé dans les années 1400. Jacques Cartier, quand il est venu, souvent la perception qu'ils ont des Québécois, le premier préjugé, c'est que l'Amérique est un pays vide, inhabité, où il y avait juste quelques sauvages, avec aucune culture, aucune civilisation, des aborigènes arriérés. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques Cartier, quand il a voyagé, il a croisé effectivement des groupes autochtones de différentes nations. À Pointe-de-Gaspé, il a rencontré des Iroquois qui venaient de Stadacone, qui étaient là pour pêcher en haute mer, parce que tu as des bancs de poissons qui approchent la berge vers le mois d'août. Je sais, c'est à Côte-Nord, on va y pêcher. Eux, ils étaient là pour pêcher ça. Il y avait un groupe de 400 hommes Iroquois qui étaient là. À quelques kilomètres de là, il y avait un autre groupe d'une centaine d'Autochtones qui étaient des Mi'kmaq, qui, eux, c'était leur territoire. Là, il y a des noms sur la carte. Stadacone, qui ressemble à Québec. Qui est Québec aujourd'hui? Et vous avez Hochelaga. Tout le monde connaît Hochelaga-Maisonneuve. Bien, c'est qu'avant d'être Montréal et d'être une ville de colons... Bienvenue chez vous. Avant d'être une ville colonisée, Hochelaga était une petite ville de commerce iroquoienne comportant environ 2000 habitants. 2000 habitants. Là, on est comme, ça ne marche pas. Il y a un groupe de 400 là-bas. Stadacone, en réalité, je ne l'ai pas dit, mais c'était 1500 habitants. Hochelaga, 2000 habitants. Wow! On s'en va où avec ça? Bien, continuez dans les Grands Lacs, vous arrivez dans les tribus Wanda, 25 000 personnes qui vivaient dans des villages de 1 500 habitants, avec environ 1 500 orques en culture. On appelle ça de la culture commerciale, qui faisait du commerce. Puis là, on est dans le Nord. Selon toutes les études des anthropologues, dont Serge Bouchard, en réalité, en Amérique du Nord, il y avait entre 25 et 50 millions d'habitants. Quand les premiers colons sont arrivés. Quand Jacques Cartier a débarqué, il y avait environ 10 millions d'Autochtones au Canada seulement. Pourtant, dans les livres d'histoire, la perception qu'on a, c'est qu'il y en avait 3 ou 4 à moitié tout nus, à moins 5 degrés, qui étaient à genoux devant eux autres, puis que les autres étaient là tout imposants. La réalité, quand Jacques Cartier est débarqué à Pointe-de-Gaspé, il était là avec 61 hommes d'équipage, puis il a débarqué parce qu'il était entouré d'une centaine de canots d'Autochtones. Il a été obligé de braquer le bateau, de jeter l'ancre, puis de débarquer, parce que sinon, ça aurait mal été. Okay? Il était là avec 61 hommes d'équipage contre 400 hommes Iroquois. Il était pour, les Iroquois ne sont pas mis à genoux devant lui. Ça, c'est certain. Pourtant, il a fait un geste pareil qui montre vraiment la vision des peuples colonisateurs à ce moment-là. La fameuse croix. Là, je vois du monde faire « Oui, là, ils savent de quoi je parle, parce que ça, c'est comme la prise de possession. » Il a planté une croix après avoir passé à peu près une semaine avec les Iroquois là-bas, sur la plage, à Pointe-de-Gaspé. Donnacona, qui était le grand chef là, lui a demandé « C'est quoi que tu fais là avec ton piquette, là? » Lui, il leur a répondu, parce qu'il avait commencé à dialoguer en une semaine, ils ont trouvé un moyen de se communiquer. Il leur a répondu, bien, c'est pour que je revienne l'été prochain, pour qu'on puisse encore faire du commerce ensemble, ce qui était naturel pour les Autochtones, surtout les Iroquois, bien, que je cherche où venir accoster, tu sais, que je me cherche pas trop. En réalité, sur la croix, c'était marqué une belle petite écriture qui était marquée au nom de François Ier, le roi de France, et de la Sainte Église catholique. Je prends possession de cette terre. 61 ticounes qui débarquent d'un bateau devant 400 personnes, piquent leur piquette, puis allez, on est chez nous, les gars. 61 gars qui ont des millions de personnes. On les trompe, on les ment. Ça, c'est un événement. En réalité, toute la suite a été ça. Des années 1500 aller jusqu'aux années 1850, on parle d'épidémie, on parle de guerre, d'extermination, de génocide. Si bien que dans les années 1800, 90 à 95 % de la population autochtone était décimée. des 500 nations qui ont été répertoriées au départ, qui étaient existantes sur le territoire, il en restait des picadilles. En réalité, les survivants de ça, c'est ceux que les colons n'ont jamais trouvés. Les fameux Innus, qui parlent encore leur langue, c'est parce que ça fait juste depuis les années 1950, 1960 qu'ils sont sortis du bois. Jusque dans ces années-là, les gens ne les trouvaient pas. Ils étaient cachés dans le bois. Les satellites, ça n'existait pas, là. Ils ne savaient même pas ce qu'ils étaient. Ils n'ont jamais côtoyé de blancs. C'est pour ça que ceux qui existent encore, qui parlent encore leur langue, en réalité, ils n'ont jamais côtoyé les colons au départ. Parce que tous ceux qui ont côtoyé les colons sont morts. On parle souvent de l'esclavage chez les Noirs. En réalité, l'esclavage, la vague d'esclavage chez les Noirs a suivi l'esclavage des Autochtones. Et vu que les Autochtones mouraient et étaient exterminés tellement rapidement, bien là, il y avait besoin de main-d'œuvre pour bûcher le bois, pour travailler des mines, pour sortir les choses. C'est là qu'ils ont commencé l'esclavage noir. Ça, c'est le bout de l'histoire où souvent on ne connaît pas. On sait que tout c'est des alcooliques puis tout, mais on ne sait pas le reste. Ensuite vient, à partir des années 1850, des politiques un petit peu plus civilisées, c'est-à-dire les pensionnats, les réserves et tout ce qui suit avec. Les fameux pensionnats que personne ne connaît. Au Québec, il y en avait 6. En été, il y en avait plus que ça, c'est juste, mettons qu'ils s'amusent encore à en cacher, là. Actuellement, il y a des enquêtes là-dessus en cours, fait qu'on y en sort des nouveaux. Au Québec, c'était principalement catholique. Il y en avait un anglican, mais si vous allez dans l'Ouest canadien, il y en avait des presbytériens, des églises unies et même des baptistes, malheureusement. C'est pour vous dire à quel point que, dans le fond, à peu près toutes les religions qu'il y avait en Amérique se sont coquinées avec le gouvernement pour créer des pensionnats indiens. Le nom de la politique était très simple, c'était « Kill the Indian in the Child », tuer l'Indien dans l'enfant. On enlevait les enfants à partir de l'âge de 4 ans à leurs parents. On les amenait dans un pensionnat. Souvent, les parents étaient unilingues dans langue autochtone. J'ai des histoires incroyables, parce qu'on fait de la récente d'aide avec beaucoup de gens qui ont passé là. Ou ce qui raconte comment le policier de la GRC débarquait avec le curé chez eux, ramassait tous les enfants, puis personne n'expliquait aux parents dans leur langue qu'est-ce qui se passait. Ils ne savaient même pas où s'en aller. Les flots étaient garochés dans les autobus, dans les autos. Ils étaient emmenés là-bas. On enlevait tous leurs vêtements autochtones. On leur coupait les cheveux. On les nettoyait à l'eau de Javel pour les blanchir. C'était une pratique commune et courante. On les nettoyait. Ensuite, on les habillait à la blanche. Et ensuite, on leur interdisait complètement de parler leur langue, sous peine de châtiment corporel. Ça, c'était le début. En réalité, ce qui a suivi, si tout le monde a entendu parler des enfants du Plessis, bien, c'était la même gang qui s'occupait des enfants du Plessis, qui s'occupait des petits-enfants indiens, qui étaient considérés comme de la charogne à ce moment-là. Fait qu'imaginez ce qu'ils ont subi. Agression sexuelle, violence, incroyable. J'ai des témoignages de gens qui ont passé 9 ans dans les pensionnats. Ils ont commencé à se faire agresser la première journée qu'ils ont rentré à 4 ans. Et ils se sont fait agresser à la dernière journée qu'ils ont parti, rendu à l'âge de 14 ans. Ça, c'est la génération actuellement des grands-parents. Regardez les dates, là, 1980, la Tuque, c'est pas loin. Non? C'est pas loin d'ici, la Tuque. 1h30, 1h15. Ça dépend de la vitesse où rouler. Il y en a peut-être qui sont vraiment mieux, mais bon. C'est pas loin, là. 1980, qui était né en 80? Un paquet de monde, non? Pourtant, personne ne connaît ça. Tout le monde sait que c'est des ivrognes. Mais imaginez une à deux générations entières. On coupe tout le rôle parental. On coupe tout le lien parental. Dans le fond, on les déracine complètement. Toutes les valeurs qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient de bon, parce qu'il n'y avait pas juste du mauvais là, dans leurs croyances. On a beau pas être d'accord avec certains rites de spiritualité ou peu importe, mais il y avait du bon. Là. C'était des gens qui étaient fonctionnels, qui avaient une civilité, qui vivaient. Il n'y avait jamais eu besoin de personne avant pour les faire vivre. On les a déracinés, on les a battus, on les a violés, on les a maltraités. leur a enlevé leur langue, leur connaissance, puis on leur a donné à peu près un semblant d'autres langues. Parce que la réalité des gens qui ont sorti là, c'est la moyenne, ils ont réussi à acquérir l'équivalent d'un secondaire, d'une troisième année langue seconde. La majorité des gens qui ont sorti de là, ils sont encore illettrés. Ça n'a pas fait, ils n'ont pas réussi à leur inculquer grand-chose, parce que tu ne peux pas inculquer à un enfant des choses en le battant, en violent. Ça ne rentre pas. Très belle photo, un avant et un après. C'est la génération des grands-parents, comme j'ai dit actuellement dans les communautés. Il y a 90 000 survivants à travers le Canada, des pensionnats. C'est les gens qui sont venus dans les communautés, qui se sont mis à boire, puis qui ont juste fait ce qu'ils ont été éduqués, c'est-à-dire reproduire des abus. En 2008, pour la première fois, Stephen Harper a mis ses culottes et a osé dire à tout le Canada, oui, c'était une politique d'assimilation, oui, on a battu les Indiens, oui, on a violé les enfants, puis on s'en excuse. Vous avez juste à aller sur notre site Internet, tout le texte est là, c'est vraiment, en tout cas, pour une fois, un gouvernement a mis ses culottes. Mais ça fait pas longtemps. Jusqu'à là, il niait encore. Après ça, on accuse les Indiens d'être des lâches, des paresseux, des profiteurs de système. Des sauvages bâtards qui violent leurs enfants puis qu'on pense que ça fait partie de leur culture. C'est toutes des phrases que j'ai entendues de mes oreilles, même dans des vestibules d'église. Qui sont-ils maintenant, aujourd'hui, les résultats de ça? C'est le fun. Sous-scolarisation. La moyenne canadienne de diplômés de secondaire 5 à travers le Canada est à peu près d'un 70%. Chez plusieurs communautés, surtout les francophones, on parle de 3-5% qui ont des secondaires 5. Alcoolisme et toxicomanie précoce. Au début de mars, j'étais justement ici à Trois-Rivières au sommet de dépendance des Premières Nations. Avec tous les chefs de bande, tous les chefs des services sociaux, les directeurs d'école, directeurs de la service police, des communautés indiennes. Et moi, j'étais là comme directeur d'organisme communautaire. C'est le fun. Dieu m'ouvre des portes incroyables. Les statistiques des trois dernières années, on est rendu avec 75% des Autochtones en réserve qui ont un problème d'alcool et ou de drogue, et les deux en même temps. 75%. C'est phénoménal. Il y a des communautés actuellement qui s'est rendu... tellement un fléau qu'ils sont en train de se détruire littéralement. La pauvreté, la plupart des gens pensent que les Indiens ont de l'argent à rien faire. En réalité, ils ont un chèque de social comme tout le monde. C'est ceux qui travaillent qui ont de l'argent, les autres n'en ont pas. Abus physiques et sexuels, on frôle le 100% dans plusieurs communautés. Criminalisation. Les Autochtones au Canada représentent à peu près 3% de la population canadienne. Ils représentent 20% des détenus fédéraux. Je sais, je travaille dans un programme autochtone en prison. Je travaille dans un pavillon autochtone. Je travaille avec eux. Et, tu sais, d'entendre 3 et 20%, c'est presque... C'est une surreprésentation. Placement important d'enfants. Actuellement au Canada, dernière statistique, 51% des enfants en famille d'accueil au Canada sont des Autochtones. 1 sur 2. Recherche d'identité, pression sociale négative. Ils ont tous perdu leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Puis actuellement, en essayant de se préserver, de se sauver, de s'encabaner entre eux autres pour se protéger, ça met une pression sociale négative qui fait que tous leurs problèmes sociaux deviennent une norme, deviennent partie de leur identité, qui fait, dans le fond, que la communauté est en train de s'écraser. Travailler avec les Autochtones, c'est de s'adapter à leur culture, à qui ils sont. Il y a quand même des beaux joyaux là-dedans. C'est de s'impliquer relationnellement un à un. C'est pas de faire une campagne d'évangélisation, de débarquer avec une religion. Ils ont connu ça, des religions, eux autres. Les missionnaires, là, ils les ont profonds. Très, très profonds. C'est vrai qu'il y a un petit... excusez. Ils les ont en horreur. Les gens religieux qui viennent leur dire quoi faire, ils les ont en horreur. Tu sais, quand j'étais en haut, je parlais de des évangéliques qui, dans les 30 dernières années, ont fait reculer l'œuvre parmi les Autochtones, c'est parce qu'ils se sont présentés de la même façon. C'est du travail un à un, c'est du travail de longue haleine, c'est de cultiver un lien de confiance avec des gens qui sont en méfiance complète, pour les amener à faire confiance dans leur Créateur, dans leur Sauveur. C'est très, très long. Nos buts, nous, on ne travaille pas avec des couples seuls, on travaille avec des équipes dans des communautés. Actuellement, on a commencé en 2008, Dieu nous a bénis. Incroyablement. Je l'ai fait par obéissance. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient, en réalité, c'est l'œuvre de Dieu. On est rendu 23 membres. On est impliqué dans 7 communautés. Il y a des fruits incroyables. Juste dans les 2 derniers mois, on a eu 4 professions de foi. Pour la première fois, dans les 6 derniers mois, on a commencé à avoir de la maturité. On commence à avoir des gens qui ont accepté le Seigneur, des communautés qui commencent à mettre leur don en action. Dans les 4 professions de foi qu'on a, il y en a 2 qui ont accepté le Seigneur par un autre autochtone, pas par nous. On commence à voir vraiment la reproduction, c'est-à-dire qu'ils sont à une maturité spirituelle où ils commencent à se reproduire, où ils mettent leur don en action. En réalité, on a à peu près 5 au Québec qui sont rendus à ce niveau-là. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait son chemin. C'est de mettre en place aussi des programmes de soutien pour les ouvriers, puis des programmes adaptés, des programmes de relations d'aide, des programmes de choses, puis de développer des infrastructures, comme on a fait à Wamantashi, où ce que beaucoup de monde, des gens de votre église ont participé, de votre assemblée. Denis et Brigitte Maisonneuve, qui sont le couple qui s'occupe de Ouachat, où ce que je suis, je n'ai pas le temps de présenter tout l'organisme, ce n'est pas le but. Si vous laissez votre adresse courriel en arrière sur la table, là, on va vous envoyer un lien vers un site web caché. Vous allez voir tous les membres, une partie des implications. Il y a plusieurs communautés où ce qu'on ne publie pas qu'on est impliqué, parce que sinon nos membres vont se faire mettre dehors. Ce n'est pas compliqué. On travaille ils travaillent dans les pays islamiques, là. Ça veut dire que les gens sont professeurs, sont infirmiers, sont travailleurs sociaux et sont chrétiens. Ils sont en train de faire des ministères qui portent des fruits. Sauf que si la communauté sait que c'est des chrétiens qui sont là pour faire du ministère, ils vont le faire mettre dehors. C'est aussi fermé que ça. Fait que, il y a plusieurs de nos ministères qu'on ne parle pas beaucoup. Ouachat, Wamantashi, c'est ceux qu'on parle le plus, parce qu'on est rendu à un niveau où c'est connu et accepté de la communauté qu'on soit là. Accepter, c'est un grand mot. Fais pas d'erreur, parce que tu vas te faire kicker dehors, ce ne sera pas long. Jean et Monique Couture, probablement plusieurs les connaissent, anciennement de Trois-Rivières. Depuis 2006, ils sont à Wamantashi. Ils travaillent maintenant en équipe avec Angélique Awashish, que certains connaissent aussi, qui est une Atikamekw de la place, une croyante incroyable. Ça, c'est le bâtiment. On a commencé en août 2008, en avril 2009. On venait à peine de commencer. On s'est fait offrir un bâtiment juste à côté de la réserve de Wamantashi. Puis l'été dernier, on l'a démoli et reconstruit. On a eu le plaisir d'avoir un tireur de joint d'ici et des gens qui sont venus nous aider. C'était une bénédiction. Actuellement, ce bâtiment-là, il sert. On n'a pas d'horaire de culte. On ne travaille pas comme ça. Il est ouvert de 2 à 5 jours semaine, le bâtiment, tout dépendant de nos ouvriers, de leur disponibilité. Et de 8 heures le matin jusqu'à minuit le soir, on a des rencontres 1 à 1. C'est tout du 1 à 1. On fait de la formation de disciples, de la relation d'aide, de l'encouragement, du support. Puis c'est de même que la maturité sort. De toute façon, pour produire une église qui est adaptée à la culture des gens, ce n'est pas en prenant une structure qui est connue d'un autre milieu et en la transportant dans le milieu de l'autre. Là, tu ne viens pas te faire rien d'adapté à leurs choses, tu viens juste de réimposer ta structure. La meilleure façon, c'est de suivre ce que la Bible nous dit. Allez, faites des disciples. Faire un disciple, ce n'est pas d'y amener une structure d'église. C'est de faire un disciple, une personne. Tu t'investis dans une personne, tu en fais un disciple par la grâce de Dieu. Puis tes disciples-là deviennent des piliers. À un moment donné, quand tu as assez de piliers, bien, ils bâtissent eux autres même leur structure. Actuellement, c'est ça qu'on est rendu à Ouachat. Puis à Wamantashi, on commence à faire des piliers. On en a une femme. C'est ce que Dieu nous donne. De toute façon, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ouvrier, c'est juste un pilier qui évangélise, qui s'occupe de sa famille et qui aime sa communauté. Je vais finir en vous partageant un passage. Je ne vais même pas le lire. Il me reste 5 minutes chrono. Fait que c'est dans 1 Corinthiens 2, les versets 1 à 5. Je vais le paraphraser complètement. Là. C'est vraiment le fun. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, puis il y a tout le débat dans 1 Corinthiens 1 où il parle de la sagesse, puis justement, il y a des choses folles qui confondent les sages, etc., etc. Dans le début de 1 Corinthiens 2, il s'adresse aux gens, puis il leur dit, je ne suis pas venu ici vous convaincre par des discours de sagesse, puis des discours persuasifs. Là, je le paraphrase complètement, là, c'est pas ça qui est exactement qui est écrit. Là. Mais en réalité, je suis venu vous convaincre par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui va vous convaincre, en d'autres mots. Au début, j'ai parlé aussi d'être des témoins. C'est un thème qu'on a entendu dans toute le culte ce matin. Mais quel genre de témoin on est? Est-ce qu'on est un témoin qui réchauffe un banc d'église, qui est assis sur son salut puis qui ne bouge pas? J'ai pris mon salut, je m'assis sur le banc, je ne bouge pas pendant 30 ans, je n'ai rien fait. Ou est-ce qu'on est un témoin qui essaie de convaincre les gens à coups de bible et de discours convaincants? Ou bien on est des témoins qui essaient de démontrer la puissance de Dieu aux autres? Mais comment qu'on démontre la puissance de Dieu? C'est facile de dire on va convaincre les autres avec des discours. On va prendre un cours, on va apprendre des versets par cœur, on va y garocher verset par verset, par verset, par verset, par verset. Puis souvent, on se rend compte qu'on rentre dans des débats d'idées puis ça ne donne rien de nulle part. Mais ce verset-là, c'est exactement ça. Je ne suis pas venu vous convaincre avec des discours persuasifs de sagesse et des choses convaincantes, mais par la puissance de Dieu. Mais comment les gens vont voir la puissance de Dieu? Comment, dans votre vie, en tant que témoin, vous allez montrer la puissance de Dieu aux gens qui sont autour de vous? En étant, premièrement, vous-même, soumis à Dieu, vous-même en train d'obéir et vous-même dépendant de cette puissance de Dieu. Ça, c'est la première étape. Si dans votre vie, au lieu d'essayer de convaincre les gens que Dieu est puissant et agissant, vous leur montrez comment Dieu est puissant et agissant dans votre vie, bien, ils vont commencer à avoir un Dieu vivant et agissant. Quand quelqu'un vient vous voir, un non-converti, il vous dit, hein, je veux me suicider. C'est peut-être rare dans vos contextes, dans le mien, c'est courant. Je veux me suicider, je veux mourir. Je suis tanné d'être battu, je suis tanné d'être violé, je suis tanné de ci, je suis tanné de ça. J'ai des problèmes de drogue, des problèmes d'argent, des problèmes avec ma famille, des problèmes avec mes enfants. Là, on rentre dans des sujets plus communs dans vos milieux. C'est quoi la difficulté de dire à la personne, tu veux-tu qu'on prie ensemble? Tu sais, mon Dieu, moi, il m'a aidé dans ma vie. Dieu, pour moi, il a été tout. Il m'a transformé. C'est un Dieu puissant. Il agit dans ma vie, puis il peut agir dans la tienne. C'est quoi d'être disponible pour demander à Dieu, dire, Dieu, montre ta puissance. Faites-vous confiance, premièrement, à Dieu dans ces cas-là. Ça, c'est peut-être la première des questions. Faites-vous assez confiance pour amener avec un inconverti puis dire, tu as des problèmes, ben regarde, on va prier ensemble puis je sais que Dieu va agir. En as-tu que son chicken? Moi, ça m'arrive. Des fois, je suis comme le problème. Tu sais, quand quelqu'un t'arrive, dire, j'ai un gros problème, là, je vais me suicider, je suis tanné de violer. Veux-tu qu'on prie ensemble? Dieu va t'aider. Ouf, faut-tu avoir confiance en Dieu, dans la puissance de Dieu? Pourtant, Dieu, il demande juste de révéler sa puissance pour convaincre. Avant d'être dans le ministère, j'étais un gars comme tout le monde. Comme la majorité d'entre vous autres. Il y en a ici qui m'ont connu. Je vous dis sourire. Je n'étais pas un ange. Quand j'étais plus jeune, même, j'avais des gros problèmes. En réalité, je ne sais encore pas aujourd'hui pourquoi Dieu m'a utilisé. Moi. Mais en réalité, ce que je sais, c'est qu'en réalité, il veut utiliser tout le monde. Il y a quoi, 250, 300 personnes ici? Si chaque personne dans le milieu où elle est, T'sais, on n'est pas tout appelé à aller dans des communautés. Là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est tout appelé à être dans notre milieu, à être des missionnaires. On est tout appelé à être des gens qui montrent la puissance de Dieu. Pas qu'ils pitchent des bibles par la traite du monde. Pas qu'ils essayent de convaincre à coup d'arguments. Ça, regarde, il y en a plein les universités des théologiens. Ils ne sont pas plus sauvés pour ça. Ce qu'ils ont besoin de voir, c'est la puissance de Dieu, une foi vivante et agissante qui transforme des vies, qui transforme des cœurs. C'est ça qui va les amener à Dieu. C'est ça qui va les attirer. C'est là qu'ils vont voir l'amour. C'est là qu'ils vont voir que ce n'est pas une religion comme toutes les autres. Toutes les religions essaient de convaincre avec leurs arguments. Ce qui va faire la différence, c'est la puissance de Dieu. Mais ça, il faut qu'ils la voient en vous. Mais êtes-vous assis dans votre divan avec votre vie tellement remplie de games de hockey et de games de curling que vous n'êtes même pas disponible pour les gens? J'ai déjà entendu le commentaire d'une autre église dernièrement dire « Ouais, mais toi, tu dois plus avoir de vie. » En réalité, j'ai trouvé ça drôle quand le gars me dit ça parce que lui, il dit « Moi, ça m'ébranle. » Il dit, je regarde tout ce que tu fais, il dit, tu ne dois plus avoir de vie du tout. Tu sais. Je dis, ben moi, je trouve que je commence à vivre. Là. Enfin, je commence à vivre une vraie relation avec Dieu pendant que des années, j'étais assis comme beaucoup. Tu sais, ce n'est pas pour vous juger, ce n'est pas pour juger personne. Je ne vous connais pas, je ne peux pas vous juger. C'est juste pour vous encourager. J'ai fait ce pas-là d'obéissance à un moment donné. Je me suis pitché et j'ai appris tellement de Dieu pour moi. Parce que moi, j'avais besoin d'apprendre des choses. Faites-le. Si 300 personnes commencent à être des missionnaires dans la ville de Trois-Rivières, 300 missionnaires dans la ville de Trois-Rivières, ça va donner quoi comme résultat? T'sais? On parle des missionnaires outre-mer, puis on lit leur lettre de nouvelles, puis on dit, « Hey, wow, as-tu vu ce qu'ils arrivent à faire? » As-tu vu ce qu'ils arrivent à accomplir, ce couple-là? En réalité, ici, là, il y en a quoi? 60, 80 couples. Vous êtes chrétiens comme tous les autres. Vous avez la même mission que tous les autres croyants. Montrez la puissance de Dieu. Montrez l'amour de Dieu aux gens qui souffrent, qui sont perdus. On va terminer avec un mot de prière. Merci, mon Créateur, mon Dieu, pour ton amour. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Ma personne qui je suis en réalité, c'est rien. C'est toi qui es tout. Seigneur, je te prie pour l'assemblée ici. Je te demande de les diriger, de continuer à les bénir, à les restaurer, à les guérir, à leur démontrer ton amour, Seigneur. Merci de m'avoir permis d'être avec eux ce matin, d'avoir pu voir comment que ils t'aimaient, puis qu'ils voulaient te louer, puis comment que, Seigneur, ils ont des cœurs sincères face à toi, Seigneur. Et nous, au travers de la semaine, à ne pas oublier qui qu'on est, qu'on est tes enfants, Seigneur. Qu'on ne rentre pas dans la routine du lundi au vendredi du travail en séparant qui qu'on est, en se créant deux personnalités distinctes, c'est-à-dire une de semaine puis une autre qui sert Dieu et qui aime Dieu. Mais que notre vie en entier, Seigneur, soit pour te servir. Peu importe où ce qu'on est. Aide-nous à être des témoins et à être des gens qui aident les autres gens à voir ta puissance. Merci pour toutes choses, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour l'abondance que tu nous donnes. Merci pour les épreuves qui nous font grandir. Merci pour la souffrance qui nous amène à toi. Merci, mon Dieu. Amen.